Les femmes sont effectivement, d'après les études et d'après ce qu'on peut observer, particulièrement dans les pays pauvres d'ailleurs, les plus impactées par les conséquences du changement climatique, que ce soit les sécheresses, les inondations, les catastrophes naturelles, la raréfaction des ressources. C'est tout simplement parce que les femmes font partie des personnes les plus pauvres ou les plus précarisées. 70% des pauvres dans le monde sont des femmes. D'autre part, elles ont une surcharge de travail liée à leurs rôles sociaux, de s'occuper de la famille, de l'environnement dans certains pays, des corvées d'eau, de bois, d'énergie, etc. Donc tout ça aggrave leur situation dans un contexte de crise économique qui se surajoute aux crises écologiques qui font boule de neige en fait dans la situation actuelle, particulièrement dans les pays qui ont le moins de ressources pour pouvoir justement mener des politiques d'adaptation ou aider les femmes à s'adapter à ces problèmes.
Donc elles sont au contact le plus direct des effets du changement climatique. Vous me parliez de l'accès à l'eau, l'environnement, etc.
Oui, il faut savoir que les femmes dans beaucoup de pays s'occupent, forment parfois jusqu'à 80% des agricultrices pour l'agriculture vivrière de subsistance, tandis que dans certaines régions, les hommes s'occupent de cultures d'exportation, de cultures de céréales. Donc les impacts sont différents d'ailleurs. Je dirais que le réchauffement climatique peut aussi accroître la compétition. Forcément, quand les ressources se raréfient, par exemple les terres, ça accroît la compétition entre agriculteurs et agricultrices, entre personnes qui s'occupent de grandes céréales et personnes qui ont simplement des jardins. Il y a aussi des phénomènes migratoires qui font que les femmes se retrouvent seules, finalement, à être en charge de nourrir les familles, de s'occuper des enfants, des personnes âgées, etc. Et dans un contexte où il n'y a pas assez de services sociaux, de services publics, de santé, qui font que c'est finalement les femmes qui servent un peu de variable d'ajustement parce qu'elles sont toujours disponibles et traditionnellement dévolues pour faire ces tâches-là.
Alors la COP22 a mis l'accent sur les femmes. Il y a eu l'initiative Women for Change, les femmes pour le changement. Quelles sont vos attentes pour cette conférence de Marrakech à ce niveau-là ?
Depuis plusieurs années, il y a un focus sur les femmes dans la conférence climatique. Ça, c'est d'ailleurs grâce à la mobilisation des associations de femmes et féministes. Parce qu'avant cette convention, cette négociation était complètement aveugle, on va dire, aux questions à la fois sociales et donc d'égalité femmes-hommes et de droits humains en général d'ailleurs. Donc là, en fait, l'idée, c'est progressivement, depuis 4-5 ans, de grignoter des acquis qui portent à la fois sur la revendication de parité décisionnelle. Il faut absolument qu'à tous les niveaux de la négociation, il puisse y avoir autant d'hommes que de femmes dans les délégations, dans les instruments techniques qui négocient. Parce que plus on monte en fait sur des enjeux importants, politiques, stratégiques et financiers, et en fait moins il y a de femmes. Donc il y a tout un enjeu de participation, de formation aux négociations aussi. Et après, l'enjeu, je dirais plus de fond, c'est l'intégration d'une approche de l'égalité dans toutes les politiques climatiques qui vont être concrétisées, on va dire, par les COP qui suivent l'accord de Paris, puisque là, maintenant, on est dans comment mettre en œuvre cet accord. Et donc, dès qu'on est dans le concret, dans la mise en œuvre, il ne faut pas que les acquis en termes de droits s'évaporent et disparaissent, comme ça a tendance à arriver. Il y a des enjeux même de qu'il y ait des budgets qui soient affectés aux associations de femmes et féministes, aux associations locales qui mettent en œuvre de réels projets sur l'adaptation. Projets économiques, projets écologiques, projets agricoles, économie sociale et solidaire, gestion des déchets dans certaines villes en Afrique. C'est finalement de façon informelle des femmes qui ont en charge la gestion des déchets de produits par la ville. Donc il ne faudrait pas tout d'un coup qu'on mette en place des politiques qui oublient qu'il y a déjà des choses qui se font de façon informelle. Et quand on formalise des mécanismes, souvent les femmes disparaissent.
Et est-ce qu'il y a d'autres des exemples concrets ou des propositions pour que les femmes soient des éléments, des solutions pour lutter contre les effets du réchauffement climatique?
On ne peut pas faire de généralité parce que chaque contexte est très différent. Et on ne peut pas non plus généraliser en disant « les femmes ». Il se trouve que dans beaucoup de sociétés, il y a des associations de femmes. Elles ont des pratiques du fait finalement de leur nécessité de prendre progressivement plus d'autonomie et de pouvoir. Elles se constituent en coopératives, en associations de femmes, en groupements. Et que ces coopératives ou ces groupements ont des pratiques d'organisation à la fois démocratiques, mais aussi une connaissance souvent du terrain. Nous, on a travaillé, par exemple, avec des artisanes du Niger. Il y a quelques années, elles étaient relativement marginalisées, parce qu'à la limite, on trouve que des produits artisanaux, des calebasses pour la cuisine et tout ça, c'est ringard. Les marchés africains ont été inondés de bassines en plastique qui viennent de Chine, par exemple. Les plastiques, c'est du pétrole. Donc les marchés sont inondés de produits ménagers ou de toutes sortes d'ustensiles là, en plastique, alors qu'il y a des femmes qui sont capables, qui ont des connaissances pour connaître les bois, les écorces, toutes sortes de... pour faire des tissus, des produits, enfin, etc. Donc en fait, ça veut dire que finalement, il y a déjà des choses qui se font depuis longtemps par des femmes, mais qui maintenant, on se rend compte que c'est utile. Et que ça peut s'inscrire dans une politique de lutte contre le réchauffement climatique. Donc tout l'enjeu, là, c'est que sur les financements qui sont débloqués, par exemple le Fonds vert climat, qui a un financement de 100 milliards d'euros à l'horizon 2020 pour aider les pays du Sud, nous, tout l'enjeu, c'est qu'il y ait une partie conséquente de ces financements qui réussissent à aller aux personnes qui mettent en œuvre ce type de projet. Voilà. C'est un des grands enjeux de la négociation et en tout cas du plaidoyer fait par nos associations de femmes et féministes.